BFM Radio, bonjour, c'est Jacques et vous êtes dans le MAC du Tarn. Ce week-end samedi, partout en France, ce sont les journées européennes du patrimoine et à cette occasion, de nombreux musées, de lieux patrimoniaux ouvrent leurs portes gratuitement au public, à tous les publics, pour permettre aux gens de découvrir le patrimoine matériel, immatériel des régions de la France. Et dans notre région, ici dans le nord du Tarn, il y a donc pas mal de musées qui vont participer à cette opération. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, en plus ce samedi annonce beau temps, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez sur le site des Journées Européennes du Patrimoine, donc sur internet, pour voir un peu les différentes animations, rendez-vous qui sont proposées, parce qu'à cette occasion les musées vont forcément proposer des choses un peu originales. Plus près de nous et même à quelques mètres de nous, le musée Charles Portal, qui est géré par la Société des Amis du Vieux Corde, organise une conférence à la Maison Fontpérouse. Donc c'est une salle qui est située dans la mairie de Corte-sur-Ciel. La conférence aura lieu à 18h et elle sera donnée par Pierrot Déo au sujet d'une pièce patrimoniale très importante pour l'histoire de Corde. On en parle aujourd'hui dans le MAG avec Pierre Déo qui donnera cette conférence ce samedi à 18h à la Maison Fontpérouse. Pierre, bonjour.
Bonjour Jacques.
Alors, la conférence portera sur le livre Ferrat, une pièce très importante, je le disais, de l'histoire de Corde. Déjà, le livre Ferrat, il a été écrit autour du XIIIe siècle, si mes informations sont bonnes.
Oui et non. Alors, il a commencé à être rédigé à la fin du XIIIe siècle, on pense peut-être le début du XIVe, et il contient tout un tas de règlements sur le fonctionnement de la vie administrative et juridique à Corde. Et il y a des articles qui ont été rajoutés au XVe siècle, au XVIe siècle, jusqu'au XXe siècle pour les derniers.
C'est une sorte de constitution locale. Je mets des gros guillemets autour du mot constitution.
On peut appeler ça comme ça. On l'appelle aussi un cartulaire. En fait, c'est un livre, oui, qui regroupe les lois, les réglementations principales qui ont été établies au cours des siècles. Mais il servait aussi pour prêter serment, parce qu'il commence avec trois extraits d'évangiles, et dès qu'il y avait une affaire, on prêtait serment, on posait la main sur le livre Ferrat, et on jurait au nom du Seigneur de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
Et pourquoi est-ce qu'on ne jurait pas sur la Bible? Est-ce que ça a un lien avec le catharisme, avec les hérétiques, avec tout ça? Pas du tout.
Non, parce que devant la loi, à Corde, on a quand même une certaine tolérance. On parle toujours des cathares, mais non, la loi est la même pour tout le monde à Corde, chez nous en tout cas. Et après, justement, il y a des extraits de la Bible qui sont recopiés sur le livre Ferrat. Pour comme ça, on n'a pas besoin de la Bible, les extraits suffisent, c'est par l'intercession de Dieu, bon, pas de serment devant Dieu, rien que sur un extrait, ça marche.
Ouais, ouais. Il a été écrit par qui, ce livre, même si on comprend qu'il y a eu plusieurs contributeurs au fil des siècles?
Alors ça, c'est une très très bonne question. Il a été écrit, bon, comme tu dis, par plusieurs contributeurs. Au début de sa rédaction, donc fin 13e, début 14e, là, ce sont des moines copistes qui, comme ça se pratiquait à l'époque. Et après, ce sont des gens en charge de la rédaction. De enfin, la comme aujourd'hui, il y a des secrétaires de mairie ou des clercs.
Des gens qui faisaient partie peut-être de l'administration.
Voilà, et qui sont les copistes, ou c'est eux les scribes.
On parle souvent de parchemin, hein, lorsqu'on parle du livre Ferrat, mais il se présente vraiment comme un bouquin. Il y a plusieurs pages, plusieurs feuilles. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce qu'il se présente, ce livre? Parce que c'est aussi particulier, sa présentation.
Bon, c'est un petit livre qui mesure 20 cm sur 15 à peu près, avec une couverture en cuir frappé. C'est vrai, il s'appelle Libre Ferrat parce que on l'enchaînait, il y a une chaîne qui est accrochée après, qui servait à le fixer au pupitre où on pouvait le consulter, quoi, pour pas
le déplacer.
Un livre de cette importance, il pouvait pas disparaître, il restait toujours au même endroit. Et à l'intérieur, il y a une soixantaine de feuillets, c'est du parchemin, donc c'est pas du papier, c'est du parchemin. Hein. Et effectivement, il y a des trous un petit peu dans la rédaction, parce que ayant été rédigé au cours des époques, il reste de la place. Donc tous les feuillets sont numérotés en chiffres romains, en gothique de l'époque du XIIIe siècle. Et comme les registres aujourd'hui, les pages sont numérotées pour pas qu'il en manque, pour que ça se suive, tout ça, c'est très vieux. Et, Et voilà, bon, il n'est pas en papier, quoi.
On l'appelle libre ferrat, donc ça c'est le terme occitan qui signifie livre enchaîné, en lien avec ce que tu nous disais, le fait d'avoir une chaîne qui permettait de le fixer sur un pupitre pour éviter qu'il ne soit déplacé. En quelle langue c'est écrit ?
Alors, il est rédigé pour la première partie, donc pour tout ce qui touche du Moyen-Âge, il est rédigé en occitan, d'après les spécialistes, dans un occitan très pur. Mais bon, ça, on va pas dire, quand on attaque à le lire, occitan très pur ou pas très pur, c'est quand même un petit peu dur, très pur, très dur.
Il y a une partie en français ?
Oui, sur la fin, à partir du 16-17e siècle, il est rédigé en français.
Bon, alors pour toi qui as pu le consulter, ça fait peut-être partie des choses que tu vas nous apprendre ce samedi à 18h à la maison Font-Pérouse. Quelles sont, selon toi, des choses marquantes que l'on trouve dans ce livre ferrat ?
Alors, moi j'ai choisi de parler du calendrier perpétuel. Voilà, du livre ferrat, qui lui a été, ce calendrier, il a été inscrit dans le livre dès le début du livre, donc on a du mal à le dater, on n'est pas sûr, mais on travaille dessus, on cherche des indices pour nous aider. Donc j'étais fin des années 1200, début des années 1300, donc fin 13e, début 14e. Et ce calendrier perpétuel, il sert perpétuel pour pouvoir trouver les lunaisons quand tombent les pleines lunes et pour savoir quel jour de l'année tombent les dimanches, voilà, avec des indications qui sont données par Rome, le Vatican. Et en ayant ces indications à la fois astronomiques pour la Lune et de calendaire pour les dimanches, on peut fixer la date de Pâques. C'était le principal problème. On sait aujourd'hui que Pâques tombe le premier dimanche qui suit la première pleine Lune après le 21 mars. Ça, c'est établi depuis l'an 325, Concile de Nicée, c'est très vieux. Mais voilà, il faut savoir... Il faut être capable de prévoir à l'avance quand va tomber la pleine lune, quand va tomber quel jour tombera le dimanche, voilà, pour pouvoir anticiper la préparation des fêtes.
Bon, c'est quoi l'utilité dans un monde aujourd'hui où on a une technologie de malade qui nous permet d'avoir déjà le calendrier de 2225 ? À quoi ça nous sert de pouvoir avoir un calendrier perpétuel manuel ?
Ben, ça nous sert, on va dire, au plaisir d'apprendre et de comprendre, je dirais, en premier. C'est pour ma part, je l'ai découvert, ce calendrier. Je savais, bon, je suis passionné d'astronomie, à cordes, on le sait, et je savais qu'il y avait ce calendrier perpétuel dans le calendrier. Donc, je me suis empêché d'aller regarder, d'aller le voir, comment il se présentait, comment ça fonctionnait. En fait, il est écrit, bon, je l'ai dit tout à l'heure, en occitan très pur, mais c'est aussi en gothique, dans une écriture qui a près de 8 siècles. Donc, au début, on le verra samedi, hein, on a des projections, bon, ça pique les yeux, on peut le dire. Mm-hmm. Mais en se renseignant un peu sur la paléographie, sur le vocabulaire, sur l'étymologie, bon, ça devient compréhensible. Et je peux dire que... bon, je peux pas expliquer tout ça maintenant, mais il y a des lacunes parce que à l'époque on est sur le calendrier julien. Or, tout le monde sait aujourd'hui que il a fallu le réformer, ce calendrier julien instauré par Jules César en 1582. Le pape Grégoire XIII a instauré le calendrier grégorien parce que les jours se décalaient, parce que les 365 jours incarnent les années bissextiles et il y avait un petit manque et on prenait un jour de décalage tous les 120 ans environ.
Ouais. Voilà autant de choses que l'on apprendra ce samedi à 18h à la maison Font-Pérouse, au travers et autour du livre ferrat qui sera présenté par Pierre Déo, hein, le gardien du musée Charles Portal. Et c'est dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Tu restes avec nous, Pierre. On va continuer à s'intéresser à ce livre ferrat, hein, qui est une pièce importante du patrimoine non seulement matériel, mais aussi immatériel de Corte-sur-Ciel et de toute la sous-région. Le Mac du Tarn, on poursuit en musique avec Ruby Cube. Voici le titre Precious Stone.
She walks in a long black dress, a poisonous grace, with a calm look on her face. She's a delicate mess. Her love has no mercy, her passion no pity for tender hearts. She takes what she fancies and breaks what she takes in thousands of parts.
C'était le titre Precious Stone, un groupe d'indie pop basé à Toulouse. Il est vraiment super cet album-là de Rubik's Cube et vous l'écoutez sur CFM Radio. Le Mac du Tarn, la suite. Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Déo, hein, le gardien du musée Charles Portal à Cordes-sur-Ciel. Et ce samedi, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, il donnera une conférence à 18h à la Maison Fond-Pérouse, c'est à la mairie de Cordes-sur-Ciel, pour parler du livre Ferrat, un livre qui est dans l'écriture, ou en tout cas les premières contributions datent de la fin du 13e siècle. Il y est question des aspects juridiques, communautaires, il faut dire, hein, sur Cordes-sur-Ciel. Il a été écrit par diverses personnes tout au long des siècles, jusqu'au 20e siècle. Et c'est de tout ça dont il sera question, Pierre, ce samedi. Alors, la conférence va être introduite et ouverte par Michel Bonnet pour parler plus du contexte historique qui entoure le livre Ferrat.
Voilà, c'est ça. Michel Bonnet, sa réputation n'est plus à faire, surtout pour les auditeurs de CFM.
Ah ben oui, c'est lui qui fait Cordes 2022. Il nous raconte l'histoire de la fondation de Cordes depuis des siècles et des siècles.
Voilà, il est absolument passionnant. Enfin, moi, je me régale d'écouter Michel. Et je tenais à lui demander un coup de main parce que il s'y connaît vraiment beaucoup plus que moi sur l'histoire de notre région, de notre pays, de notre village, à cette époque-là, à l'époque de Raymond VII et de ses descendants. Donc, Michel a aussi a mis le nez dans le livre Ferrat. C'est en prévision, on parle de 2022, hein,
oui,
pour le 800e,
les 800 ans de la fondation de Cordes.
Donc, le livre Ferrat, il témoigne dans les divers articles qui sont rédigés au travers des siècles, je le rappelle. Il donne vraiment des tas de renseignements sur la vie à Cordes, sur comment on vit, comment on gère cette ville. Et c'est un témoignage qui, couplé à d'autres documents, bon, ça me donne vraiment
un aperçu.
Beaucoup de renseignements, ouais, sur la vie à l'époque. Ouais,
ce voilà. qui est curieux, c'est de voir que donc Cordes a été fondée en 1222, donc il y a pratiquement 800 ans aujourd'hui. Donc à la moitié du 13e siècle, le livre Ferrat, lui, a commencé à être écrit à peu près à la fin du 13e siècle. Donc ça voudrait dire que ce livre fait partie vraiment des origines de Cordes. Donc c'était en quelque sorte un livre qui permettait de fixer des règles de la cité, sachant que Raymond Dette, qui va être le créateur, hein, en tout cas le fondateur de Cordes-sur-Ciel, s'attachait à vouloir créer une société un peu nouvelle où les gens vivaient en communauté, mais où ils devaient eux-mêmes un peu choisir leur règles de vie. Est-ce que dans ce livre, du coup, on retrouve un peu cette forme de liberté, de légèreté ou d'envie de créer une société nouvelle ?
Mais oui, quelque part, mais à la fois, il fallait être prudent parce que on a envie d'être pas marginal, mais un petit peu alternatif, ou de faire la vie telle qu'on l'entend à Cordes. Mais après ça, on est soumis à des autorités. Donc d'abord, l'autorité du comte de Toulouse, que ce soit Raymond VII ou ses descendants. Mais après, le comté de Toulouse a été rattaché au roi de France, à la couronne. Donc là aussi, maintenant, le patron, c'est le roi. Donc il faut respecter, même si avant, on a été en guerre. Hein, il y a Simon de Montfort, il est envoyé par le roi. Bon, il y a des mauvais souvenirs. Donc... Donc, quelquefois, il y a des petites ambiguïtés ou des petites choses à voir. Voilà, mais on reste prudent. Mais au niveau du calendrier, je reviens toujours sur le calendrier. Je parlais de comment fixer la date de Pâques. C'est une règle universelle partout dans le monde qui, à l'époque de la création du Libre Ferrat, ça fait plusieurs siècles que tout le monde fête Pâques de la même manière. À Cordes, on a une manière alternative de fixer la date de Pâques. Dans 90% des cas, ça va tomber le même jour. Pâques tombera le même jour que le Vatican et toutes les fêtes qui sont reliées à Pâques. Mais quelquefois, ça va tomber à une semaine ou deux de différence. Mmh. Donc, il y a quand même des différences. On ne suit pas le modèle universel établi dans tous les pays chrétiens. Et on connaît la force de l'Église. Hein. C'est aussi fort que le roi à l'époque. Donc, il faut écouter l'Église sous peine d'excommunication ou d'hérésie. Eh bien, à Cordes, figurez-vous que pour déterminer certaines dates chrétiennes, on ne fait pas comme tout le monde.
Dans ce livre, tu nous parles beaucoup de ce calendrier, donc ce calendrier perpétuel qui fixait le rythme de vie des citoyens de Cordes-sur-Ciel. Et d'ailleurs, j'invite les auditeurs qui peuvent s'intéresser à ce sujet à écouter les émissions de Michel Bonnet. C'est le lundi à 13h, Cordes 2022. Elles sont aussi disponibles en podcast sur le site de la radio. Il est vraiment question de tous ces sujets-là. Alors, on parle du calendrier perpétuel. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans ce livre ? Est-ce qu'il y a des aspects purement historiques ou purement patrimoniaux dans le livre Ferrat.
Et on trouve deux mémoires. Alors, bon, j'ai parlé des trois évangiles, de trois évangiles sur quatre, trois extraits. On a la charte, les chartes de fondation de Cordes, la charte de 1222 et celle de 1283, au moment du rattachement à la couronne de France. On a l'autorisation du roi de faire le marché le samedi. On a la foire de la Saint-Barthélemy à l'époque, pareil, avec autorisé par le roi. On a les prix de la farine, du pain. On trouve un règlement sur les prisonniers. On ne doit pas faire payer une amende aux prisonniers avant qu'ils n'aient été jugés. Okay, voilà, donc ouais. On est quand même un petit peu sympa à Cordes. Hein. Mmh. C'est vrai que c'était hyper moderne à l'époque, la ville. Et jusqu'au... beaucoup de réglementations comme ça, et vraiment la dernière inscription, le dernier chapitre, c'est un compte-rendu des fêtes qui ont été organisées en 1922 à l'occasion du 7e centenaire de la ville. Donc là, toute la mairie, les conseillers municipaux, Charles Portal lui-même était là, est cité dans, il signe à la fin. Le conseil municipal raconte ce qu'ils ont fait pendant trois jours de fête intense à l'époque.
Ça pourra servir parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a déjà pas mal de gens qui se réunissent régulièrement pour des rendez-vous de remue-ménage, c'est sur les pavés, hein, au restaurant sur les pavés, pour organiser le 8e centenaire de la fondation de Cordes. Donc peut-être d'avoir les notes comme ça sur le 7e centenaire, ça donnera des idées, des pistes et tout ça pour ce qui va se passer tout au long de l'année 2022. À Cordes-sur-Ciel. Le livre Ferrat, l'original, est conservé à la mairie de Cordes-sur-Ciel. Au musée Charles Portal, c'est un facsimilé que l'on peut voir et que l'on peut voir notamment ce samedi.
Oui, traditionnellement, à Cordes, le livre Ferrat est exposé pour les journées du patrimoine. Donc là, il sera juste à côté, on pourra le voir en vrai, le toucher, c'est un peu compliqué parce que vieux de 700 ans, il faut quand même... faire attention, c'est assez fragile, donc il sera protégé, mais au bout du compte, on pourra mieux l'analyser en le voyant sur le grand écran dans des projections, et c'est plus pratique que sur le vrai.
Qu'est-ce qui va se passer d'autre au musée Charles Portal d'ailleurs? Comment il se porte ce musée? Parce qu'il y a eu pas mal de travaux, il y a eu des nouveaux aménagements, des nouvelles pièces aussi qui arrivent. Est-ce que tu peux nous parler pour finir un peu du musée Charles Portal, toi qui en es le gardien?
Le musée, ça bouge et je dois dire que toute la poussière séculaire du bâtiment n'a plus le temps de se redéposer parce que on n'arrête pas. Depuis l'année dernière, c'est vrai qu'on installe, on est sur la broderie cordaise, donc bon, je ne vais pas... tout le monde connaît la Broderie Cordes, bien entendu, avec l'aménagement d'une nouvelle salle, l'installation du métier, la réparation et l'optimisation et le réglage du métier, ainsi que les enfileuses, enfileuses d'aiguilles. C'est bon, il faut les voir pour ceux qui connaissent pas. Donc la broderie, oui, on est à fond et on se prépare à broder, à faire nos premières broderies avant la fin de l'automne.
Ah ouais, carrément, ce sera pas juste une pièce qui va servir à présenter, ce sera une pièce qui devra produire aussi.
Oui, produire. Bon, on n'est pas sur une production
industrielle, j'imagine bien.
C'est pas de l'industrie.
Non, mais l'idée, c'est de montrer un peu comment se passait, en tout cas, comment on utilise un métier à broder.
Ben voilà, montrer comment ça fonctionne, d'une part, mais surtout ne pas laisser mourir, ne pas laisser partir le savoir, parce qu'aujourd'hui, on trouve plus que des brodeurs en Suisse, dans la région de Saint-Gall, où eux, ils ont perpétué ils ont entretenu la tradition. Ouais. Mmh. Mais les gens, ils sont plus jeunes, ils sont vieux. Il faut des mécaniciens aussi. Bon, on a de la chance. Voilà, j'ai compris comment ça fonctionne un métier et je m'occupe des réglages et de l'entretien. Mais il faut que ça continue. Il faut qu'on puisse transmettre ça. Et on a une personne à Cordes qui peut nous former, nous apprendre à broder, qui elle-même a été formée par Henri Garde, le dernier brodeur de Cordes. Donc voilà, il faut pas que ça s'arrête. On a cette mission de gardien de cette tradition, de ce métier, de ce savoir.
Et si le musée Charles Portas s'attache à remettre au goût du jour la broderie, c'est parce que pendant des siècles, la broderie était l'industrie principale de la ville de Cordes. Si on comptait des dizaines et des dizaines de brodeurs à Cordes.
Presque, pas pendant des siècles. Pendant des siècles, on a fait du tissage, on a tissé, ouais, à Cordes. La moitié de la ville.
Il y avait des tanneurs aussi aux cabanes.
Voilà, beaucoup d'artisans, mais. Le tissu, on a exporté dans tout le sud de la France des kilomètres carrés de tissu. Vraiment, c'est impressionnant. On a des livres de comptes, des marchands de drapiers. On voit les quantités phénoménales. Mais ça a duré jusqu'au milieu du 19e siècle, parce qu'à cette époque, on a inventé les métiers à tisser industriels. Mmh. Donc, les tisserands à Cordes, ils étaient morts. Et c'est Albert Gors qui a été mobilisé pour la guerre de 1870, qui a été fait prisonnier en Suisse, dans le village où on fabriquait les métiers à broder. Et quand il est revenu à Cordes, il a ramené dans ses bagages un métier à broder. Il a vu que ça se vendait, on est en 1872-73, ça marchait très fort, il a construit une usine, d'autres l'ont imité, d'autres usines se sont construites. Des particuliers ont acheté à crédit des métiers à broder. Bref, pendant 40 ans, jusqu'à la Première Guerre mondiale, on a brodé à fond. Là, c'est pareil, quasi la moitié du village de Cordes brodait, était dans la filière. Et on dit qu'il y avait plus de 200 métiers à Cordes. Aujourd'hui, il en reste 3, malheureusement. Tous les autres, ils ont été vendus au prix de la ferraille. Ils ont disparu avec la crise de la broderie à la fin de la guerre, de la Première Guerre mondiale.
Rendez-vous au musée Charles Portal pour en savoir plus sur l'histoire de Cordes. C'est un musée qui s'attache vraiment à raconter l'histoire du pays cordais, de la ville de Cordes, bien sûr, mais aussi du pays alentour. Et samedi, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le rendez-vous, c'est à 18h à la maison Font-Pérouse pour une conférence donnée par Pierre Déo sur le livre Ferra, avec une introduction de Michel Bonnet qui resituera au niveau historique les tenants et les aboutissants, ou en tout cas le contexte dans lequel s'est écrit ce livre Ferra. Merci beaucoup, Pierre,
merci
gardien
Jacques,
du musée
merci
Charles Portal, d'être venu au micro de CFM. On rappelle, hein, le musée Charles Portal, géré et administré par l'association La Société des Amis du Vieux Cordes, l'une des plus vieilles associations du Tarn. Ça aussi, il faut le souligner. Je crois que d'ailleurs que Jean Jaurès a fait partie des tout premiers adhérents, si mes souvenirs sont bons de ce que on m'a raconté. Merci beaucoup d'être venu, Pierre. Le Mac du Tarn, c'est tout pour aujourd'hui. À suivre sur CFM dans quelques minutes, c'est le Flash Info, hein, avec c'est Dominique aujourd'hui qui s'y colle pour nous donner les bonnes et les mauvaises nouvelles. On se retrouve demain, même fréquence, même heure.
Les poches pleines, devine les systèmes même. Je me tasse, trop de place, le système même. Transporte la chance, danse, mutant tactile, grand corps fragile, le grand air est pas cher, mutant. imbécile, toute la famille.